Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième jour de la neuvaine de prière pour les malades. Quand la souffrance interroge, Dieu répond par l'espérance. Le mot souffrir, nous l'avons vu hier, vient du latin suffero, qui signifie je porte. Et de fait, nous parlons spontanément de ce que nous devons supporter. Supporter un voisin difficile, un collègue compliqué, un beau-frère ou une belle-sœur envahissant, un enfant turbulent, un supérieur exigeant, un responsable politique, un évêque. La liste peut être longue, parfois très longue. Lorsque nous disons que nous supportons quelqu'un, nous laissons entendre que cette personne nous fait souffrir, qu'elle pèse sur nos épaules. Il est d'ailleurs rare d'entendre dire que nous supportons la joie ou le bonheur. La joie, nous ne la supportons pas. Elle nous porte. La souffrance, au contraire, nous fait plier l'échine. Le langage populaire le dit très bien. Je suis écrasé de souffrance. Là, le poids devient trop lourd. Lorsque nous laissons parler notre langage, il faut l'écouter. Si la souffrance dure trop, si elle écrase, nous pressentons qu'elle doit bien finir un jour. La mort peut alors apparaître, pour certains, comme une issue possible. Ainsi, des personnes accablées par une douleur souffrance qu'elles jugent insupportable en viennent à envisager la mort, voire à se donner la mort, pensant ainsi y échapper. Mais est-ce si évident? Les études sur le suicide, comme celles menées en 2018 par la Commission de la santé mentale du Canada, invitent à nuancer fortement cette interprétation. Elles montrent que les comportements suicidaires ne s'explique pas par une seule logique de fuite de la souffrance, mais résulte d'une interaction complexe de facteurs psychologiques, sociaux, biologiques et environnementaux. En effet, face à cet écrasement, la tentation de la mort surgit comme une promesse de libération. Le suicide est souvent envisagé comme l'ultime recours pour faire cesser le signal douloureux. Mais la souffrance elle-même, en tant que perte de sens et destitution de soi, est-elle réellement abolie ? L'Écriture et les traditions mystiques parlent de souffrances éternelles. Si la science moderne confirme l'arrêt des fonctions neurologiques et des symptômes cliniques au moment du trépas, la question du sens et de la persistance de la souffrance au-delà du biologique demeure entière. Car la structure de la personne ne se réduit pas à sa dimension organique. La souffrance peut affecter la structure même du sujet dans son rapport à la vie. La tradition biblique et les traditions spirituelles évoquent d'ailleurs des souffrances éternelles, non comme un châtiment arbitraire, mais comme l'état d'une âme qui s'est fermée à la source de la vie. L'interrogation qui hante le souffrant est presque systématiquement celle du pourquoi. Derrière ce cri se cache une dialectique de la rétribution. Qu'ai-je fait de mal pour mériter une telle souffrance ? Ou encore, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ? Même ceux qui se déclarent athées s'en prennent parfois violemment à Dieu, au cas où il existerait, pour lui attribuer la responsabilité de leur souffrance. Cette quête de causalité morale tente de justifier l'insupportable par une faute commise. C'est la question même des disciples de Jésus face à l'aveugle né dans l'Évangile selon saint Jean. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Cette logique de mérite ou de démérite imprègne nos jugements, allant jusqu'à l'absence de compassion devant le malheur d'autrui, perçu comme une juste conséquence de ses actes. Cette question laisse entendre que la souffrance pourrait être une punition. J'ai mal agi, donc je souffre. Mon fils a fait ceci, ma fille a fait cela, donc je paie. Nous pouvons même nous dire intérieurement, si tu avais fait plus attention, tu souffrirais moins. Et nous pouvons le dire aux autres, si tu avais été prudent, tu n'aurais pas eu cet accident, tu l'as bien cherché. C'est ici que le modèle gnostique ou dualiste imagine un combat perpétuel entre le bien, un monde sans souffrance, et le mal, la souffrance dans le monde, où l'homme doit chercher un équilibre précaire, un juste milieu entre deux pôles opposés. Tandis que le modèle chrétien n'identifie qu'un seul pôle d'attraction, Dieu. Dans cette perspective, la souffrance n'est pas un pôle autonome, mais le résultat d'une oscillation du cœur de l'homme qui s'éloigne de son centre. L'amplitude des oscillations du cœur humain mesure alors son péché. Comme l'écrit saint Paul, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Ceci étant dit, l'homme reste temple de Dieu, même si sa nature a été profondément blessée par le péché originel. C'est donc la situation dans laquelle l'homme éprouve le mal qui nous intéresse. Selon l'enseignement de la lettre apostolique Salvici Doloris de saint Jean-Paul II. Nous le verrons dans une prochaine méditation. Après avoir tenté de comprendre ce qu'est la souffrance dans son poids, ces mécanismes et ces interrogations les plus profondes, il nous faut maintenant quitter le seul plan des idées pour entrer dans une expérience vécue. Car la souffrance ne se laisse pas pleinement saisir par des concepts. Elle se révèle dans une histoire, un visage, une vie. C'est pourquoi tournons-nous vers un témoignage concret, celui d'une enfant qui, très tôt, a été confrontée à l'épreuve et qui nous éclaire de l'intérieur. Rappelons-nous comment Thérèse traverse sa première souffrance lorsqu'elle nous raconte ce sourire de Marie survenu au matin de sa vie. À l'âge de 4 ans et demi, elle perd sa mère, âgée de 46 ans, le 28 août 1877. Cette séparation brutale, elle la vit dans un profond silence, incapable même de verser une larme. Pour combler ce vide, elle choisit sa sœur Pauline comme mère adoptive. Peu après, son père, Louis, s'installe à Lisieux avec ses 5 filles afin de se rapprocher de sa famille, de la famille. À 8 ans et demi, Thérèse entre au pensionnat des bénédictines de Lisieux. Bien qu'elle rentre chaque soir à la maison, elle y découvre une vie collective difficile. Plus tard, elle confiera que ces années furent les plus tristes de sa vie. À 9 ans, durant l'été 1882, elle apprend que Pauline souhaite entrer au Carmel. Cette annonce ravive en elle la blessure de la perte maternelle et la plonge dans une profonde détresse. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans, alors qu'elle séjourne chez son oncle Guérin, que les larmes longtemps retenues jaillissent enfin. Mais face à cette émotion, son oncle l'interrompt et cherche à la distraire, pensant apaiser son chagrin. Cette réaction, bien qu'animée de bonnes intentions, ne rejoint pas la profondeur de sa souffrance. Très vite, Thérèse tombe gravement malade. Son état se dégrade, régression, perte d'appétit, douleurs inexpliquées. La médecine reste impuissante. Sa famille et les carmélites de Lisieux prient avec ferveur. Son père, dans un élan de foi, fait demander une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. C'est alors que survient l'événement décisif. Le 13 mai 1883, jour de la Pentecôte, Thérèse, âgée de 10 ans, se tourne vers la statue de la Vierge près de son lit. Dans sa détresse, elle implore son secours. Soudain, elle voit le visage de Marie s'illuminer d'un sourire d'une douceur inexprimable. À cet instant, toutes ses peines disparaissent. Des larmes coulent, non plus de tristesse, mais d'une joie profonde et paisible. Elle est guérie, à la fois dans son corps et dans son âme. Ce sourire marque pour Thérèse un tournant décisif. Il vient restaurer en elle une présence maternelle perdue, apaiser une blessure ancienne et lui rendre la paix intérieure. Certains commentateurs ont voulu réduire cet événement à un simple phénomène psychologique. Une telle lecture est non seulement insuffisante, mais profondément réductrice. Elle passe à côté de l'essentiel. En effet, il serait inacceptable de limiter cette intervention mariale au seul prisme de la psychologie en écartant le concours de la grâce. Thérèse aurait-elle imaginé ce sourire? Or, son expérience montre que la grâce ne s'oppose pas à la nature. Elle la rejoint, la traverse, la transforme. Ainsi, les approches psychologiques et spirituelles ne s'excluent pas. Elles s'éclairent mutuellement. Avec le temps, la fécondité de cette expérience ne fera que se confirmer. Pourtant, la route de Thérèse ne s'arrête pas à cette guérison. D'autres épreuves viendront éprouver sa vie. Même le sourire de cette grâce sera obscurci pendant un temps, jusqu'à ce qu'elle retrouve, 4 ans plus tard, toute sa lumière. Le 4 novembre 1887, Thérèse part en pèlerinage à Rome avec Louis, son père, et Céline, sa sœur, pour demander au pape la permission d'entrer au Carmel à 15 ans. C'est lors de ce pèlerinage, de passage à Paris, devant Notre-Dame des Victoires, qu'elle reçoit une confirmation intérieure profonde. Elle comprend que c'est bien la Vierge qui lui a souri et l'a guérie. Dès lors, elle ne l'appellera plus seulement mère, mais maman, dans une relation d'une tendresse filiale retrouvée. Ainsi, à travers cette épreuve de la souffrance, Thérèse découvre l'amour maternel de Marie et y découvre de tout son cœur. Y répond de tout son cœur. Son témoignage nous invite aujourd'hui à porter dans la prière et la compassion tous les enfants qui vivent des souffrances silencieuses. Séparation familiale, blessures affectives, culpabilité injustifiée, autant de douleurs, souffrances invisibles qui marquent profondément l'âme. Nous sommes ici dans le mystère de la souffrance, dont personne ici-bas n'est exempte. Thérèse a compris très jeune que la souffrance faisait partie de sa vie. Elle ne l'a pas choisie, mais elle a appris à la traverser dans la foi, en y découvrant une présence qui ne l'abandonne jamais. Ce que nous venons de contempler dans la vie de Thérèse ne relève pas seulement d'un récit touchant du passé. Cela ouvre pour nous un chemin de compréhension et d'espérance. Car son expérience ne s'arrête pas à elle-même. Elle devient une lumière pour tous ceux qui traversent l'épreuve. À partir de ce témoignage, nous pouvons maintenant approfondir ce mystère. Comment, au cœur même de la souffrance, peut jaillir une force d'amour capable de transformer l'existence. Au cœur même de la souffrance, quand les forces physiques et psychiques sont épuisées, se libèrent souvent des forces d'amour insoupçonnées. Là où tout semble s'effondrer, un autre équilibre apparaît. Un espace nouveau s'ouvre. Si nous enlevons à celui qui souffre le sens de la souffrance, que lui reste-t-il ? Rien d'autre que le désespoir. C'est pourquoi il faut toujours laisser place à la vie. C'est pourquoi il est impératif de ne jamais laisser croire aux malades, aux défigurés de la vie, que leur existence ne vaut plus rien. Il faut s'insurger contre tout regard ou toute parole qui méprise la valeur des vies fragiles, jeunes ou vieilles. Quand la souffrance interroge avec toute sa force, l'amour de Dieu répond par l'espérance. Thérèse nous en est le témoin lumineux. L'Église, en la proclamant docteur, nous invite à la prendre pour guide dans son charisme particulier de sagesse. Elle a parlé de la souffrance, non pas de l'extérieur, mais depuis l'intérieur, avec une profondeur unique. Un mois avant sa mort, elle confiait : J'ai beaucoup souffert ici-bas. Il faudra le faire savoir aux âmes. Cette parole ne relève ni de la plainte, ni d'une exaltation de la souffrance, mais elle est un acte de charité. Thérèse veut que les âmes sachent que la souffrance unie au Christ Jésus peut devenir un lieu de lumière, un lieu de vie. Thérèse comprend à la lumière de l'Évangile que la souffrance n'a de sens que dans la mesure où elle devient relation, parce qu'elle est précisément le lieu où le Christ s'est uni à l'humanité jusqu'au bout. Dans sa vie, la souffrance n'est jamais vécue comme un absolu. Elle n'a de valeur que dans l'abaissement, la kénose du Christ qui en a fait un espace de communion et non de destruction. Car pour Thérèse, la souffrance est un lieu de vie où se manifeste la logique même de l'incarnation. Dieu rejoint l'homme là où il est le plus démuni, afin de l'y sauver de l'intérieur. C'est pourquoi sa vie montre clairement que la souffrance n'est pas à glorifier en elle-même et qu'elle ne conduit pas à Dieu par sa seule dureté, mais seulement lorsqu'elle est transfigurée par l'amour. Accueillie dans la foi, la souffrance devient un passage où l'âme renonce à s'appuyer sur ses propres forces pour se libérer entièrement à la miséricorde, selon la dynamique même du mystère pascal. Thérèse montre que la souffrance ne doit jamais être imposée, recherchée ou idéalisée, mais elle doit être accompagnée, soulagée, soignée et surtout habitée par la présence du Christ. D'une certaine manière, elle enseigne que le premier devoir envers le souffrant est de reconnaître sa dignité, de respecter son combat intérieur et de ne jamais lui laisser croire que sa vie n'a plus de valeur. Elle ouvre ainsi un chemin où la personne éprouvée peut découvrir qu'elle n'est pas abandonnée, mais portée par celui qui a pris sur lui toute souffrance humaine. En cela, Thérèse offre à l'Église un enseignement qui aide chacun à reconnaître au cœur même de l'épreuve la présence d'un Dieu qui ne supprime pas la souffrance, mais qui ne cesse jamais d'y déployer sa miséricorde. Elle rappelle que Dieu n'est pas d'abord celui qui enlève la douleur, mais celui qui la traverse avec nous, la transforme de l'intérieur et y fait naître une communion nouvelle. Même lorsque la souffrance demeure, elle peut devenir le lieu où s'ouvre une véritable rencontre avec la miséricorde. Cet espace où Dieu fait naître une présence qui relève et qui éclaire. Un lieu au lieu de laisser l'âme dans la solitude ou dans l'absurdité. Amen.